Je t'ai rien dit, frère, qu'est-ce que tu as?
Je vois, t'as la fille.
Vas-y. Ah, ça y est, ça y est. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم في الدنيا وأخرى فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأحبتي الكرام نواصل بعون الله عز وجل قراءة كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى وما زلنا في كتاب البيوع وبحمد الله عز وجل قد ذكرنا بعض شروط صحة البيع. فالأول هو الرضا. Donc, بحمد الله عز وجل, nous sommes toujours dans le chapitre concernant les transactions, les ventes. طيب. Et on avait mentionné donc certaines conditions pour que la vente soit valide. La première condition, الرضا, c'est-à-dire le consentement, hein? L'acceptation, le consentement mutuel entre les contractants. الشرط الثاني أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقدين. La deuxième condition, que la chose qui est vendue ainsi que sa valeur soit connue et soit déterminée auprès des deux contractants. الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمها أن يكون مقدورا على تسليمهما. طيب. Et troisième condition, il faut que la chose qui est donc vendue soit accessible au contractant. La chose vendue soit accessible au contractant au moment de la signature ou de l'établissement du contrat. طيب. الشرط الرابع هو أن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه. Quatrième condition, que le contractant soit propriétaire de la chose qui est vendue. ou qu'il ait été délégué par le propriétaire. الشرط الخامس وهو يعني العاقد بالغ أن يكون بالغا عاقلا ورشيدا. Cinquième condition, que le contractant soit pubère, doué de raison et quelqu'un de raisonnable ou de rationnel ou capable de gérer des biens. طيب نعم والشرط السادس ماذا أن لا يكون فيه ربا. Et la sixième condition, qu'il n'y ait pas dans la transaction de riba, c'est-à-dire d'usure, des intérêts. Hein? Qu'il n'y ait pas des intérêts. D'ailleurs, donc on a vu que l'interdiction de riba dans l'islam est claire, évidente, transparente, et elle est prouvée par le Coran, par le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par le consensus des savants de la sunna et par yani al-qiyas, l'analogie, hein, qui fait que toute injustice est interdite et donc al-riba est l'une des plus graves injustices. Donc forcément, elle sera également interdite. Elle sera également interdite. Puis on a vu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Ubada radiallahu anhu, hein, qu'on a mentionné, rapporté par Muslim. Et on avait résumé le hadith en trois points. On avait dit, premier point, إِذَا بِيعَ جِنْسٌ بِجِنْسِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ وَالتَّمَاثُلِ. Premièrement, lorsque deux choses sont échangées, hein, lorsqu'une chose est vendue par une autre chose, et que ces deux choses-là sont de la même nature, ou de la même espèce, il faudra deux conditions. La première, le taqabud. L'échange doit se faire lors de la même assise, avant la séparation. Et la deuxième condition, at-tamathul, l'équivalence dans le poids ou dans la mesure. Taïeb, donc si je vends par exemple du riz contre du riz, hein, donc c'est deux choses de la même nature, le riz et le riz, eh bien il faudra obligatoirement ces deux conditions-là. Que l'échange se fasse avant la séparation des contractants et l'équivalence dans la mesure. Donc si je donne un soi de riz, eh bien je dois recevoir en échange un soi de riz. Même si la valeur à la base de ces des riz est différente. Même si le goût est différent, la couleur ou l'âge est différent, il faut ces deux conditions-là. Que l'échange se fasse avant la séparation des contractants, التقابض, et il faut que la mesure soit équivalente. Un sa contre un sa. Un mout contre un mout. Deux mout contre un mout. Contre deux mout, pardon. وهكذا. طيب. Pareil pour l'huile. Donc si j'échange, hein, un litre ou 10 litres d'huile d'olive contre de l'huile de tournesol, مثلاً, et on considère que les deux sont de la même nature. C'est de l'huile. L'huile d'olive, c'est de l'huile. Et l'huile de tournesol, c'est de l'huile. Il faudra donc les deux conditions. L'échange lors de la même assise et l'équivalence dans la quantité. 10 litres contre 10 litres. وهكذا. Pareil pour les dates. Si je vais vendre 10 kilos, 20 kilos de dates à soukari contre des dates à soufri ou des dates à l'khudri. Si je vends donc 20 kilos de soukari, je ne pourrai les vendre que contre 20 kilos de soufri ou de l'khudri. Ou hakada. Taïeb? Naam. Thumma. إذا بيع جنس بغير جنسي ويشاركه في العلة فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل. Deuxième cas, lorsque on va vendre une chose d'une nature contre une chose mais d'une autre nature différente, mais qui vont toutes les deux se rejoindre au niveau de la pesée par exemple, ou au niveau de la mesure. Eh bien, dans ce cas-là, on devra respecter une seule condition qui est l'échange lors de la même assise avant la séparation. Et quant à la condition de l'équivalence de la quantité, du poids ou de la mesure, elle n'est pas obligatoire. Vous voyez ? Donc, je vais échanger, par exemple, yani, un exemple qu'on a donné la semaine dernière, échanger du blé contre des dattes. Échanger du blé contre des dattes. Donc le blé et les dattes sont des choses qui se mesurent en soi, en moud, etc., etc. Donc on aura le droit dans ce cas-là de vendre par exemple 10 kilos de blé contre 5 kilos de dattes. À condition, par contre, que l'échange se fasse lors de la même assise. طيب. ثم إذا بيع جنس بغير جنسه ولا يشاركه في العلة فلا يشترط التماثل ولا التقابض بل يجوز البيع بالأجل والشراء بالوصف ونحو ذلك. Et troisième cas, lorsque on va vendre quelque chose d'une espèce contre une chose d'une espèce différente ou d'une nature différente, et qui en plus diffère au niveau de la pesée ou au niveau du poids, ou de la mesure. C'est-à-dire une chose qui se mesure contre une chose qui se pèse. Une chose qui se pèse contre une chose qui se mesure. Alors dans ce cas-là, il n'y aura plus la condition de l'équivalence dans la quantité. Il n'y aura plus non plus la condition de at-taqabud, c'est-à-dire l'échange avant la séparation des contractants. Il sera permis donc de vendre quelque chose et en échange de quelque chose qui sera donné de manière différée. Ou acheter quelque chose, yani, en ayant seulement la description de la chose que l'on achète. Et qu'on va recevoir donc à un moment ultérieur, à une date ultérieure. وهكذا. نعم. وأود أن أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو قال جابر ابن عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. الحديث ذا جابر. Il dit Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui mange des riba ainsi que son moukila. Donc moukila, je l'avais traduit par celui qui délègue, hein, pensant que ça venait du verbe aukala, déléguer. Mais ici, en vérité, ça vient du verbe akala, qui veut dire celui qui donne à manger. Hein, celui qui donne à manger. Donc le vrai sens ici de moukilahu, La vraie traduction ici, c'est Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, maudit celui qui mange riba et celui qui le fait manger. C'est-à-dire celui qui va donner à la personne riba. Donc c'est pas seulement celui qui mange ou celui qui met dans sa poche riba, et celui qui va aussi faire manger les autres et mettre dans la poche des autres riba. D'accord? Donc manger, c'est pas seulement hein, celui qui va manger de la nourriture qui est le résultat d'un riba, mais c'est aussi celui qui empoche dans son compte en banque de l'argent, dans sa poche, de l'argent qui est le fruit de riba. Naam. Taïeb. Hein, ça c'est pour répondre à ceux qui disent des fois, oui mais c'est pas moi qui reçois dans mon compte en banque le riba. Certes, c'est pas toi, mais c'est toi qui est la cause de ça. C'est toi qui participe du coup et qui contribue au système d'intérêt usuraire. Taïeb. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui mange riba et aussi celui qui fait manger. Et bien sûr aussi les deux témoins, ainsi que celui qui l'écrit, il dit que tous, ils sont identiques au niveau du péché. Wal'iyadu billah. Ay na'am. Idhan, fanwasil, faqala المؤلف رحمه الله تعالى والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فالجهل بالتماثل هو أن يقع الشك في معرفة مقدار كل من الجنسين فلو كان عندنا إناءان من البر ولا ندري ما مقدار كل منهما فقد يكونان متساويين وقد يكون أحدهما أكثر من الآخر فهذا جهل بالتماثل وهو بمنزلة العلم بالتفاضل وهو أن نعلم أن أحدهما أكثر من الآخر فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق من التماثل بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. Donc il dit par la suite l'auteur رحمه الله الشيخ سعدي, il dit que le fait d'ignorer l'équivalence dans le poids ou la mesure, eh bien, est similaire au fait de connaître la différence dans le poids et la mesure. Je répète, le fait d'ignorer l'équivalence est identique au fait de connaître la différence. C'est-à-dire, ignorer l'équivalence. Et cela arrive lorsque l'on a un doute, par exemple, sur la quantité exacte des deux choses qui vont être échangées et vendues. Hein? Si on a, par exemple, deux récipients de blé, un récipient de blé et un autre récipient de blé, et on ne sait pas exactement combien il y a de quantité de blé. Est-ce qu'il y a un ça, deux ça, trois ça? On n'en sait, on sait pas. On les a pas mesurés, on n'a pas les instruments pour les mesurer. Hein? Il se peut donc qu'il y ait exactement la même quantité, et il se peut que un récipient soit plus rempli que l'autre. On n'en sait rien. Donc cela revient à dire qu'on ignore l'équivalence. هذا هو جهل التماثل. Et cela est identique au fait de connaître que les deux choses sont différentes au niveau de la quantité. Donc si tu ignores que ces deux choses-là sont ou pas identiques au niveau de la quantité, eh bien cela revient à dire que tu connais leur différence au niveau de la quantité. Yani c'est pareil. C'est-à-dire que Naam, si tu ignores cela, eh bien tu ne pourras les échanger ou les vendre contre l'autre tant que tu n'auras pas vérifié, tant que tu n'auras pas vérifié que les deux marchandises possèdent la même quantité ou le même poids ou la même mesure. faudra vérifier. Peser, si ce sont des choses qui sont pesables. Mesurer, si ce sont des choses qui sont mesurables. Naam. Wadeh? Tayyib. Kama naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an bay'i al-muzabana wa huwa shira'u at-tamri bit-tamri fi ru'us an-nakhl muttafaqun alayhi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Sa'id. فالمزابنه مشتقه من الزبن وهو الدفع، وبيع المزابنه داخل ضمن ربا الفضل، لانه شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر على الارض، ولا يمكن التحقق من التساوي في هذه الصوره. فالحديث دليل على قاعده ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. Donc, il dit l'auteur, Cheikh Sa'adi, rahimahullah ta'ala, comme le prophète a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, la vente de al-muzabana. Donc, al-muzabana, c'est un terme technique. D'accord? Al-muzabana, il a interdit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que al-muzabana? Eh bien, c'est le fait d'acheter des dattes par des dattes qui sont encore sur le palmier. Qui sont encore en haut du palmier. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Acheter des dattes par des dattes qui sont encore en haut du palmier. Al-Muhim. Rapporté par Abi Sa'id Al-Khudri. Radiallahu anhu. Donc Al-Muzabana, il est tiré du terme Zabn. Qui veut dire la poussée, le fait de pousser quelque chose. Al-Zabn. Taïeb. Donc la vente de Al-Muzabana, eh bien, elle contient de ce qu'on appelle riba al-fadl. Le riba, l'intérêt usuraire de l'augmentation ou du rajout. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, on va acheter des dates. Voyez, qui sont en haut du palmier, les dattes qu'on dit rotab, hein, rotab c'est une variété de dattes, il y en a qui n'ont pas encore été cueillies, voyez, par des dattes qui sont déjà cueillies, qui sont, yani, à terre, au sol, et non sur le palmier. Et donc il ne sera pas possible de vérifier l'équivalence entre les deux. Comment va-t-on vérifier que la quantité de dattes qu'il y a sur le palmier est équivalente à celles qui sont par terre? D'accord? Donc le hadith, c'est la preuve de la qaïda, de la règle que l'on a mentionnée juste avant, qui est que ignorer l'équivalence équivaut à quoi? À connaître la différence. Ceci est la même chose. Kif kif. Taïeb? ثم يقول ورخص في بيع العرايا بخرسها فيما دون خمسة أوسق والأوسق جمع وسق وهو ستون صاعا فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع فرخص في بيع العرايا بخرسها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرسها رواه مسلم وأخرجه أيضا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمؤلف ساق الحديث بالمعنى والعرايا جمع عرية والحديث يبين أن بيع العرايا رخصة وذلك لأنه مستثنى من النهي عن بيع المزابنة وقد رخص الشرع في العرايا بالشروط وهي أن تباع بالخرص فيقدر حمل النخلة بما يؤول إليه تمرا. Donc il dit l'auteur رحمه الله تعالى mais le prophète عليه الصلاة والسلام a permis la vente de العرايا Al-araya. Al-araya, c'est le palmier qui a encore des dattes sur lui, des dattes qu'on dit rutab. Il est permis de vendre ces dattes-là en faisant une estimation. Khars, bi kharsiha. En faisant une estimation de la quantité. À condition que cela est inférieur à 5 awsuq. Donc awsuq, qui est le pluriel de wasq, terme qu'on a vu déjà dans le chapitre de Zakat, et qui, un wasq équivaut à 60 sa'. Un wasq équivaut à 60 sa'. Donc, 5 wasq, ça fait 300 sa'. 5 wasq, 6, 60, 3, 5, ça fait 300. Ça équivaut à 300 sa'. Puis il dit, l'il muhtaj et la rotab, en faveur de celui qui nécessite, qui a besoin des rotab, et qui n'a pas de thamen, c'est-à-dire qui n'a pas de quoi acheter ces rotab. Avec de l'argent, par exemple. Et kharsiha, après avoir estimé la quantité de ces rotab, de ces dates. Le hadith rapporté par Muslim, ainsi que le Bukhari, selon Abi Huraira radiallahu anhu. Sachant que ce hadith a été mentionné par l'auteur dans son sens. Donc l'araya, c'est le pluriel de ariya. Et le hadith nous montre que le fait de vendre l'araya est une autorisation. Une exception dans l'interdiction de la vente qu'on a vu tout à l'heure, al-muzabana. Le fait de vendre des dattes qui sont encore dans le palmier par des dattes qui sont à terre. Il faut savoir donc qu'il y a une exception à la règle. Et cette exception-là, dans la religion, elle a des conditions. La première condition, que ces dattes-là soient vendues avec une estimation, après estimation. Après une estimation. Donc on va estimer qu'est-ce que ce palmier-là va donner comme date. Va donner comme date, il y en a les dates qui sont mûres. On va estimer quelle quantité de tamr, de date, cela va donner. Donc, première condition, l'estimation, l'évaluation. الشرط الثاني أن تكون في أقل من خمسة أوسق. Deuxième condition, que la quantité donc estimée soit inférieure à 5 أوسق, c'est-à-dire 300 صاع. C'est-à-dire 300 صاع. الشرط الثالث أن يكون المشتري محتاجا للرطب. وَلَيْسَ مَعَهُ نَقْدٌ يَشْتَرِيهِ بِهِ. Troisième condition, que l'acheteur ait besoin de ces rotables, de ces dates qui sont rotables, et qu'il n'a pas sur lui de l'argent pour les acheter avec son argent. S'il a de l'argent avec lequel il peut acheter ces dates, il se doit d'utiliser son argent et ne pourra pas donc les acheter avec des dates. Voyez. الشرط الرابع أن يقبض البائع التمر بكيله ويخلي بين المشتري وبين الرطب في النخل. Et quatrième condition, que le vendeur prenne les dates بكيله, c'est-à-dire مثلاً ces 100 soirs de dates, qu'ils les prennent, taillés, avant de laisser donc l'acheteur avec le palmier, yani, rempli de rotab. D'accord? Non. Donc on a ici les quatre conditions qui font exception à la règle qu'on a citée tout à l'heure concernant l'interdiction de al-muzabana. Al-muzabana. Non. ثم يقول: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، فهذا هو الشرط السادس. قال شيخ سليمان: هذا هو الشرط السادس. وعندنا قلنا أن الربا أو السلامة من الربا كانت الشرط ماذا؟ السادس. إذن هذا هو الشرط السابع. المهم، الشرط السابع أو السادس من شروط البيع، وهو أن يكون المعقود عليه مما يباع الانتفاع به بلا ضرورة، وضده المحرم، وهو نوعان كما سيأتي. Autre condition de validité de la transaction. Il faut que qu'il n'y ait pas ou que le contrat n'ait pas été fait autour d'une chose qui est interdite religieusement. C'est-à-dire, ça c'est donc la sixième ou la septième condition. Chez nous, c'est la septième. Parce qu'on avait dit que le fait que le contrat soit dénué d'intérêt était la sixième condition. Vous vous rappelez? Donc ici, la septième condition, c'est quoi? Eh bien, c'est que la chose qui est concernée par le contrat fasse partie des choses qu'Allah Jalla wa Ala a autorisées. A autorisées. De base, d'en jouir et d'utiliser sans nécessité, sans qu'il y ait une nécessité. D'accord? Et donc le contraire de la chose qu'Allah Jalla wa Ala il a autorisée sans nécessité, eh bien c'est un muharram, c'est une chose qui est interdite. D'accord? Et cela est de deux, donc la chose interdite ou les choses qui sont interdites, qui font que le contrat ne sera pas valide, sont de deux types. On va les voir, Inch'Allah. Alif. Imma li'aynihi. Kama naha al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an bay'i al-khamr wal-mayta wal-asnam muttafaqun alayhi. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر. فالبيوع المحرمة نوعان: النوع الأول ما نهي عنه لعينه فلا يجوز بيعه لأنه لا يجوز الانتفاع به، وهذا النوع منه ما جاء النص بتحريمه ومنه ما قيس عليه، ومن ذلك النهي عن بيع الخمر والميتة والأصنام، فقاس الفقهاء على الخمر والميتة تحريم بيع الأشياء النجسة والمتنجسة كالسباع والمواد الضارة لمن يستعملها فيما يضر كالمخدرات ونحوها، وقاسوا على النهي عن بيع الأصنام التحريم بيع كل ما فيه ضرر على الدين أو الأخلاق كبيع الصلبان وآلات له والصور المحرمة ونحوها. نعم. Donc, premier type de choses qui sont interdites et qui ne peuvent donc être concernées par un contrat de vente et d'achat, les choses qui sont interdites pour ce qu'elles sont. Les choses qui sont interdites pour ce qu'elles sont. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'alcool. Donc l'alcool est interdit pour ce qu'il est. Donc la vente de l'alcool sera interdite par rapport à ce qu'est l'alcool. Voyez ? Il a interdit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam la vente de al-mayta. C'est quoi al-mayta ? C'est l'animal qui est mort. Qui est mort sans être égorgé de manière légiférée. Donc l'animal, par exemple, qui est mort d'une maladie, qui est mort de vieillesse, ou qui est mort d'une façon qui n'est pas légiférée, n'a pas été égorgé de manière légiférée, cet animal, on dit qu'il est meïta. Donc il sera interdit de vendre el meïta, de la viande qui n'est pas halal. Taïeb. Et il est interdit également de vendre el asnam, les idoles, les statues qui sont adorées en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Hein? Que ces statues sont soit en bois, en pierre ou en métal. Peu importe. Donc le hadith, il est authentiquement certifié et rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Jabir, radiallahu anhu. Donc, les transactions qui sont interdites sont de deux sortes. La première, celles qui sont interdites par rapport à ce qu'elles sont. À la chose elle-même qui est vendue ou qui est achetée. Il sera donc interdit de les acheter ou de les vendre. Comme il est interdit de les utiliser ou de les acquérir. Vous voyez? Donc ça, c'est cette catégorie-là d'objets ou de choses. Parmi elles, il y a des hadiths qui les mentionnent de manière claire et de manière explicite. Et d'autres choses, on va appliquer sur elles ce qu'on appelle al-qiyas, l'analogie. L'analogie, qui est le fait de émettre le même jugement sur une chose qui n'a pas de texte explicite qu'une chose sur laquelle il y a un texte explicite parce qu'elles se rejoignent au niveau de la cause qui fait que la chose est interdite. Ça, c'est le qiyas, l'analogie. Hein? Donc, parmi les choses qui font que la transaction est interdite pour ces choses-là elles-mêmes, car il y a des textes explicites là-dessus, eh bien, celles que l'on vient de citer, l'alcool, el-meïta et les idoles. D'accord? Et donc, les juristes, ils ont fait l'analogie par rapport à l'alcool et par rapport à el-meïta. Et du coup, ils ont interdit toutes les choses qui sont impures. Ceux qui sont d'avis, par exemple, et qui disent que l'alcool est impur en soi, ils disent que c'est une impureté en soi, matérielle, ils disent donc que toute chose qui est également impure est aussi interdite, au même titre que l'alcool, parce qu'elle se rejoint au niveau de la cause qui est l'impureté. Ceux qui disent que el-meïta est interdite parce qu'el-meïta, elle est impure. Eh bien, ils disent que toute chose qui est également impure est interdite à la vente. Ils disent donc qu'il est interdit de vendre un animal sauvage, féroce, un fauve, tel que le lion, le tigre. Ils disent qu'il est interdit de les vendre parce que ce sont des animaux qui sont impurs. Hein? Au niveau de la de leur bave, de leur salive, de leur... Hein, ces choses-là. Ainsi que les choses qui sont nuisibles pour celui qui va les utiliser sur lui, et qui sont nuisibles et nocives, comme el-meïta, la viande d'un animal qui n'a pas été égorgé de manière légiférée. La consommation de cette viande, elle est nocive. Eh bien, le fait de vendre quelque chose qui est nocif est également interdit. Comme quoi? La drogue. Hein? On ne peut pas dire oui, mais il n'y a pas de choses, de texte explicite interdisant la drogue. Non. Ici, l'analogie, elle est faite, elle est claire. Toute chose, Allah Jalla wa Ala, il est interdit explicitement. Le fait de se nuire à lui-même, à soi-même, pardon. Le fait de se nuire à soi-même. Donc, consommer de la drogue est clairement nocif. Donc, il sera évidemment également interdit d'en vendre. Hein? Aïna'am. Donc on voit ici la gravité de ceux qui vendent ce genre de produits. Malheureusement, parmi les enfants, les jeunes, des musulmans qui vendent ces produits-là, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue. Na'oudhu billah. Et également, on fait l'analogie avec l'interdiction de vendre des idoles, des statues de Bouddha, des statues de, soi-disant, de Isa, alayhi salam, de Maryam, alayhi salam. Hein? Eh bien, on va faire l'analogie, on dira que tout ce qui porte préjudice et représente une nuisance pour la religion de la personne, et pour la croyance de la personne, et pour le comportement de la personne, est aussi interdit à la vente. Comme quoi? Le fait de vendre des croix. Hein? Des croix de Nassara. Le fait de vendre des instruments de musique. Des guitares. Des batteries. Des flûtes. Des pianos. Jahid? Ou le fait de vendre des images interdites par Allah Jalla wa'ala, des statues, des portraits d'êtres humains, des portraits d'animaux, hein?
Des anges.
Naam, des statuettes, soi-disant, représentant des anges, soi-disant. Il est totalement interdit de vendre ces choses-là, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit de vendre les idoles. Ou l'alcool, ou les bêtes qui n'ont pas été égorgées avant de mourir correctement selon la législation islamique. النوع الثاني ما نهي عنه لأنه يسبب قطيعة ونزاعا بين المسلمين كتحريم بيع المسلم على بيع أخيه أو الشراء على شرائه وصورته أن يأتي مشتر إلى بائع ويساومه على سلعة يريد شراءها فيقول له بائع آخر أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل فهذا محرم. Le deuxième type d'interdiction, c'est qui a été interdit, car cela aboutit à une rupture des liens entre les personnes ou à des dissensions, des conflits entre les musulmans. D'accord? Tout ce qui aboutit à des conflits, à des ruptures, des liens, est interdit parmi les ventes. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la vente d'un musulman sur la vente de son frère musulman, ou l'achat d'un musulman, c'est-à-dire l'achat d'un objet fait par un musulman sur l'achat de son frère musulman. C'est-à-dire, en français c'est un peu bizarre, mais en arabe c'est clair. Exemple, le fait que l'acheteur se rende dans un magasin par exemple, et il va commencer à parler avec le vendeur. Il va commencer à marchander, à négocier sur le prix de la marchandise. D'accord? Donc il veut l'acheter. Et tout d'un coup, un autre vendeur, il entre dans son magasin et il interpelle l'acheteur, le client. Et il lui dit, moi je te vends la même marchandise mais moins cher. Je te vends la même marchandise, mais moins cher. Cela est interdit. Cela est interdit. C'est ce qu'on appelle bay'ul muslimi ala bay'i akhihi. Le fait de vendre quelque chose à un musulman sur la vente de son frère musulman. Et à l'inverse, l'acheteur, il rentre et il dit, c'est bon, je vais t'acheter ça pour tant. D'accord? Et puis d'un coup, un autre client, il rentre dans le magasin. Et il dit au vendeur, il dit, non, moi, je te l'achète, mais plus cher que lui. Moi, je t'en donne plus. Ceci également est interdit. Ceci également est interdit. D'accord?
Et si je dis, moi je t'achète, mais moins cher.
Ben non, le vendeur ne l'acceptera jamais. Vous voyez? Dans tous les cas, on n'a pas le droit. Une fois que le client est en train de négocier, marchander avec le vendeur, de s'immiscer entre les deux. Et de vouloir vendre quelque chose moins cher ou d'acheter quelque chose plus cher. Hein? Pour faire, pour annuler la vente ou l'achat qui était en train de se faire. Lakin, yustathna, na'am. Il y avait une chose aussi que je voulais dire. Et également, il est interdit de contribuer à ça. Ça y est. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un cas similaire ou un cas assez particulier. On m'a posé la question. Il y a une personne qui s'était donc engagée, entre guillemets, à acheter une marchandise. Donc, elle a dit à une autre personne, elle a dit, voilà, mets-moi la marchandise de côté. Mets-moi là de côté, c'est bon, je te l'achète, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, un frère a su donc cette négociation. Et ce frère-là, il savait que un autre vendeur vendait la même marchandise, mais moins cher. Donc, elle est partie dire à l'acheteur, écoute, moi, je connais un vendeur qui vend la même marchandise, mais moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Celui qui avait dit, mets-moi la marchandise de côté, il a dit, ok, ben, du coup, je vais pas aller voir ce vendeur-là, je vais changer de vendeur et je vais aller voir l'autre qui vend moins cher. Ça y est? Donc, ça, c'est également interdit parce que tu auras contribué à quoi? Eh bien, à mettre en conflit alors que la parole avait déjà été donnée, alors que la négociation avait déjà été faite. Dans ce cas-là, tu ne peux pas aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, moi je connais un autre vendeur qui va te vendre moins cher. D'accord? Bah, yeah. يستثنى من هذه الصورة بيع المزايدة وهو أن تعرض سلعة في السوق ثم يقال من يشتري هذه السلعة فلكل من يريد شراءها أن يزيد فيها حتى تباع عليه. طيب. Mais il y a une exception, on finira sur ça, inshallah. Une exception à la règle ici, par rapport à l'exemple qu'on a donné, c'est ce qu'on appelle bay'u al-muzayada. À ne pas confondre avec bay'u al-muzabana. Vous vous rappelez tout à l'heure, bay'u al-muzabana, le fait d'acheter des dattes qui sont dans le palmier par des dattes qui sont à terre, au sol. Ça, c'est bay'u al-muzayada. Al-muzayada, qu'on va traduire tout simplement par les enchères. Les enchères. Donc, est-ce que les enchères, c'est permis? Eh bien, oui, c'est permis. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que les enchères? C'est le fait d'exposer une marchandise au marché. Tu vas au marché avec ta marchandise que tu veux vendre. Et puis, on va dire, qui veut acheter cette marchandise? Donc, tu vas faire un appel aux gens, aux clients, et tu vas dire, qui veut acheter cette marchandise? Donc, tous ceux qui vont vouloir l'acheter, eh bien, ils vont dire leur prix. Et ils vont augmenter le prix. Lorsqu'ils vont voir que, par exemple, quelqu'un dit, moi, je veux l'acheter à 20 €. Et il y en a un autre qui veut l'acheter aussi. Et lui, il sait que pour pouvoir l'acheter, il va devoir augmenter le prix. Il va dire, non, moi, je l'achète à 30 €. Et un troisième dit, non, moi, 40 €. Quatrième, 50 €. 60 €. Hein? Jusqu'à ce que le vendeur accepte de vendre sa marchandise au prix qu'il voudra. Et au prix, donc, il verra le plus élevé. Les enchères. Donc en arabe, on dit bay'u al-muzayada. Donc cette transaction, par contre, elle est permise. Elle est autorisée. بحمد الله عز وجل. طيب الحمد لله. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, bien Allah Azza wa Jalla. On continuera donc lundi prochain au niveau de ce livre, Minhaj Salikin, Inch'Allah Ta'ala. Donc on sera toujours dans le chapitre concernant les transactions, les ventes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la compréhension dans les règles de sa religion. فنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.